tard pour convaincre mes frères de me laisser être là à la place d'une réunion de congrégation. J'ai réussi à négocier la matinée. En fait, l'expérience dont je vais partir, elle est double. Elle est d'une part, je m'occupe depuis maintenant une quinzaine d'années, plus 20 ans maintenant, je travaille à la formation de mes propres frères. Et donc je suis face aux jeunes générations qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, et dans lesquelles on voit de manière très concrète hein, les effets bénéfiques, mais des fois aussi les effets, les dommages collatéraux liés à la présence des nouvelles technologies de la communication. Donc vous voyez, notre communauté existe depuis 30 ans, et en 30 ans, on a vu, on est passé des dinosaures que sont les aînés, que nous sommes, qui vivaient encore dans la télévision à une chaîne quand ils étaient petits, à 4 ou 5 chaînes quand ils sont rentrés dans la vie religieuse, quand c'est pas 2 ou 3, aux jeunes générations qui sont non seulement pluguées à la manière de Matrix, mais qui sont sous Wi-Fi, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de prise jack pour être en permanence dans le réseau, même quand ils sont dans la vie religieuse. Inutile de vous dire qu'un jeune, on ne le débranche plus jamais. Voilà. Il n'attend qu'une seule chose, d'ailleurs inconsciemment, c'est que dès qu'il retrouvera après le noviciat et un peu de profession simple une certaine autonomie, il va se rebrancher sans même s'en apercevoir. Et déjà pendant le noviciat, il faut se battre pour que la moindre activité humaine ne donne pas lieu à l'usage possible d'Internet pour la comptabilité, la procure, la cuisine, la préparation de la liturgie par un feuillet imprimé. Enfin voilà. Donc ça, c'est ma première expérience, mon premier laboratoire. Le deuxième, c'est que je travaille depuis maintenant 15 ans avec le monde de l'entreprise. Voilà. Et que l'entreprise est un des lieux, où vous vous en doutez, où ces technologies de la communication ont énormément d'impact et d'importance. Bien que ça soit un monde qui ne prend que lentement conscience en profondeur des conséquences que ça a sur elle. J'ai travaillé avec un petit groupe pour Microsoft, il y a France, il y a maintenant 4 ans, 5 ans. Et nous étions, ce petit groupe, extrêmement impressionnés de voir que Microsoft France ne soupçonnait pas un seul instant que les produits qu'ils vendaient pouvaient avoir des conséquences profondes sur l'organisation et la vie des personnes dans les entreprises. Les grands dirigeants français aussi, qui sont tous des dinosaures, donc de plus de 45 ans, ignoraient aussi, eux, tout à fait, que les entreprises qu'ils dirigeaient pouvaient être profondément modifiées dans leur organisation et la vie personnelle de leurs membres par l'introduction à haute dose de ces technologies. Alors, je vais me contenter d'une approche, on va dire, philosophique, hein, pour avoir une approche technologique de la question d'Internet. J'y ferai allusion, une approche éducative, évidemment une approche à la lumière de l'Évangile. Là aussi, j'y ferai allusion, mais comment mettre ces outils au service de l'Évangile, c'est pas du tout la même question que de savoir que constituent humainement ces outils. Hein. Et je vais commencer par ça. Le problème, c'est les précautions ou les chemins de l'usage intelligent sur le plan humain de ces outils. Parce que si c'est pas intelligent sur le plan humain et pas prudent sur le plan humain, il y a peu de chances que ça le soit sur le plan de l'Évangile. Donc c'est le préalable, si vous voulez. Moi, je vais travailler sur le préalable. Alors, rapidement, j'aime bien ce qu'a rappelé le Père Baudouin sur réalisme et confiance. Hein. Moi, je vais travailler sur la part du réalisme pour que la confiance soit possible. Internet n'est que l'aboutissement d'une longue évolution du développement des outils de communication. Je peux vous parler du passage de la tradition orale à l'écriture, mais rien que ça, c'est absolument passionnant. Hein. Comment est-ce que la civilisation de l'écriture est celle qui a fait naître la philosophie? Comment la réflexivité philosophique ne serait jamais née sans l'écriture? C'est un travail passionnant. Pourquoi est-ce que c'est le passage de l'oral à l'écrit et le développement de l'écrit dans l'espace méditerranéen qui a permis le miracle de l'éveil de la pensée philosophique en Grèce? Ou de la pensée rationnelle réflexive et la sortie du mythe? Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, ça serait rien que ça passionnant. La grande révolution d'imprimerie, on la connaît mieux. Puis le passage, vous savez, le télégraphe, puis le téléphone, puis la télévision. Puis, et on change, on n'est plus dans le télé là, on est dans l'Internet. Et les mots veulent dire aussi quelque chose. Et donc, c'est-à-dire Internet, la création d'un deuxième espace-temps, hein, pour faire court. La création réelle d'un deuxième espace-temps. Je vous invite tous à regarder régulièrement, une fois par an, le premier tome de Matrix. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une réflexion parabolique. Hein. Ce film n'est pas un film de science-fiction, c'est une parabole réflexive sur la réalité de ce qui se passe. Voilà. C'est très intéressant tous les ans de le relire, parce que moi je le revois tous les ans, et tous les ans son caractère prophétique, parabolique et prophétique, me paraît extraordinairement pertinent. Vous savez qu'en plus il est bourré de références chrétiennes. voilà, et qu'il aborde plein de questions. Et donc c'est bon avec des jeunes, d'ailleurs c'est significatif, quand vous regardez ça avec des moins de 25 ans, le problème dans le film, c'est qu'ils savent pas très bien où est le réel et où est le virtuel dans le film. Normalement, nous, les dinosaures se repèrent un peu mieux. Ils savent que le réel est plutôt du côté du crasseux et le virtuel plutôt du côté du séduisant, par expérience. Alors ça, c'est bon, c'est un arrière-fond historique. Ensuite, rappelez quand même le contenu. Qu'est-ce qu'on fait ces révolutions à partir de l'imprimerie, d'ailleurs, déjà. Hein, déjà à partir de l'écriture. C'est l'accentuation de l'audio, du visuel, puis de l'audio. Hein. L'écriture accentue le visuel, puisqu'elle rend visible la parole. La parole, jusque-là, n'était pas visible, elle est uniquement auditive. L'écriture la rend visible en même temps qu'auditive. L'imprimerie la rend, diffuse cette vision de la parole de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus objective aussi que ne le faisait la tradition écrite. Puis ensuite, on est dans le développement progressif de l'audio. À partir du télégraphe, c'est un audio bizarre parce que c'est un audio codé. Puis le téléphone. Et puis on invente cette nouvelle chose qui est audiovisuelle, hein, qui est la télévision. Et que Internet va utiliser de manière maximale. Alors même si on est dans l'interactif, ça ne change rien, que la base elle est audiovisuelle. Ça veut dire, pourquoi j'insiste, c'est qu'au passage on a laissé tomber le goût, l'odorat et le toucher. 3 sens sur 5. Et aujourd'hui on est dans les outils sont des outils de transmission. Alors soyons précis, c'est de la transmission purement reproductive. Ça veut dire que les outils aujourd'hui que sont l'Internet ou la télévision ou même le téléphone ne sont pas des outils créatifs en eux-mêmes. Vous voyez, ce n'est pas des outils qui symbolisent. La symbolique, elle est dans l'esprit de ceux qui s'en servent. Mais le souci principal, hein, alors évidemment, il y a une utilisation symbolique du cadre comme de la photo, aussi bien de la télévision. Hein, on ne filme pas n'importe quoi et on ne le filme pas n'importe comment. Et on peut, avec le même support, faire apparaître les gens de manière stupide ou géniaux, quelle que soit d'ailleurs leur intelligence ou leur bêtise, ça n'a absolument aucune importance. L'outil est capable de transformer complètement la perception que l'on a de la réalité. Mais surtout, la puissance de ces outils, c'est que derrière, ils ont la possibilité de nous donner l'illusion de la réalité comme si on était. Ce que n'a jamais cherché à faire la peinture. Hein. La peinture, tous les arts, les arts... cherche à vous rendre présent les choses sans prétendre vous les reproduire à l'identique. Là, nous sommes, et nous ne devons pas l'oublier, dans la séduction et l'avantage de la simili-reproduction à l'identique. Nous ne sommes évidemment pas dans la reproduction à l'identique. Hein. La webcam qui est branchée sur les îles Caraïbes ne vous donne ni l'air marin, ni l'iode, ni la température du lieu. Elle ne vous donne que les vagues et le bruit du vent. Et encore, elle vous donne même pas les vagues et le bruit du vent. Elle vous donne une reconstitution sonore numérisée par le biais des haut-parleurs que vous avez dans les oreilles de ce qui, à l'origine, sont des vagues et du vent. Mais vous ne voyez ni des vagues et vous n'entendez pas du vent. Le vague et le vent, ça ne s'entend pas par le biais d'outils reproductifs, ça s'entend en direct. Donc vous entendez la reproduction, la retransmission, avec toute la distance qu'il y a dans le mot reproduction ou retransmission. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y aurait déjà des milliers de choses à dire. Pour parler comme les Grecs, on perd la symbolisation. Enfin, volontairement, on a l'avantage aussi de ne pas s'encombrer de la symbolisation. On joue sur le fait que c'est comme si on y était. Hein, aujourd'hui, un chirurgien peut donner des conseils à un autre à des milliers de kilomètres de distance et le guider jusque dans l'opération qu'il est en train d'opérer, parce qu'il est un spécialiste mondial par biais d'une webcam et avec un micro. Bon, je ne vais pas insister sur le fait, vous comprendrez l'ensemble de la conférence, et de vous montrer l'ampleur du laboratoire et de vous donner les pistes de travail. Simplement pour souligner que laisser tomber le goût, l'odorat et le toucher, et accentuer l'audio et le visuel, accentuer le visuel, c'est accentuer le sens de la forme, et accentuer l'audio, c'est accentuer le sens de la relation. Hein, l'audio est très particulièrement relationnel pour des raisons à la fois de l'organe auditif. L'organe auditif est un organe qui joue à l'intérieur de nous-mêmes, hein, alors que la perception visuelle est une perception à travers une surface. Mais c'est l'abandon du toucher, c'est-à-dire de l'identification du réel. D'accord ? Quand vous êtes face à une image, vous ne savez absolument pas si la chose existe réellement. Hein. Tout le monde sait que les images publicitaires désormais sont des femmes ou des hommes d'ailleurs qui n'ont jamais existé puisqu'ils ont été retouchés par biais de pixels de manière non chirurgicale. Enfin, c'est la photo qui est l'objet d'une retouche chirurgicale, pas la personne. Enfin, la personne l'est souvent aussi d'ailleurs, mais voilà. Donc vous n'avez pas touché, d'accord ? Donc il y a une perte fondamentale du contact sensitif au réel. Relisez Noce, le livre de Camus, Le vent à Djemila et Tipaza, qui est une espèce d'hymne à la sensorialité absolument incroyable. La deuxième chose, c'est la perte l'élimination de l'odorat, c'est-à-dire le sens de la singularité. L'odeur, elle est toujours singulière, elle est absolument personnelle. Deux personnes n'ont pas la même odeur. Nous l'avons complètement oublié parce que nous sommes dans des odeurs génériques. Mais l'originalité absolue d'un objet se reconnaît à l'odeur, pas à la vue. La vue repère les éléments standards et les détails. Enfin, les animaux savent très bien ça. Nous, animaux, nous l'avons oublié progressivement. Nous sommes dans une atrophie de l'odorat très forte. Mais malgré tout, tous les grands parfums sont des grands parfums. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une capacité de mettre en œuvre, de mettre en lumière la singularité des personnes que n'ont pas les parfums de substitution. C'est toute la différence. Bizarrement, vous savez, ces espèces de machins pour enlever les mauvaises odeurs, là. Ça ne vous donne pas trop la singularité des personnes, ce type d'odeur. Pourtant, ça a un caractère, si vous voulez, voilà, c'est le Attila de l'odeur. Ça tue tout, quoi. Non, mais un grand parfum n'est pas un grand parfum par hasard. Il y a des effets de mode et les gens ne s'en perçoivent pas toujours, mais c'est quand même ça. J'ai l'impression de discuter avec ce qu'on appelle un nez, vous savez, quelqu'un dont la spécialité est de fabriquer des parfums. Puis vous avez des gens qui sont des palais aussi, ils ne sont pas des nez, mais ils sont des palais, c'est le goût. Et le goût, c'est très bizarre, c'est l'adéquation à soi, le goût. On dit de quelqu'un qu'on ne peut pas le sentir, mais on dit quelqu'un qui vous fait vomir, ce n'est pas tout à fait le même genre de choses. Ça vous goûte, ça goûte ou ça ne goûte pas, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, le goût, c'est le sens de « ça me plaît ». Je ne le développe pas, mais ça, on est, vous en doutez bien, dans la culture contemporaine, plutôt dans une atrophie de ses sens et dans leur... voilà. Donc ça, c'est un petit rappel fondamental sur lequel il y aurait pas mal de choses à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'insister sur le basculement. C'est-à-dire que la création de ce deuxième espace-temps d'Internet, le changement de paradigme, n'est pas uniquement un changement de paradigme lié aux outils de communication. Il est beaucoup plus large. Les outils de communication ne sont qu'une des trois faces de ce nouveau paradigme et d'ailleurs plus simplement de ce nouveau monde. Nous avons, en 30 ans, basculé de monde. Nous sommes sortis pour la première fois dans l'histoire de l'humanité d'une structure sociale de type traditionnel et rural pour entrer dans un monde qui n'a plus, plus aucun adossement, ni au cosmos fondamental, adossement fondamental, ni au cosmos, ni aux logiques de survie, et qui a changé de perception de la distance et du temps. Je prends un exemple très simple. Il y a 100 ans, la plupart des citoyens français vivaient dans un périmètre, l'ensemble de leur existence, d'un carré de 40 km de côté. C'est 80% de leur existence. Moi, j'ai encore connu des agriculteurs qui, dans le Périgord, étaient allés voir une fois la Méditerranée, une fois l'Atlantique. Et lui était monté une dizaine de fois à Paris pour le salon de l'agriculture. Mais voilà, l'ensemble de son existence était déroulé entre Périgueux et Limoges. Voilà. Donc, espace local, un nombre d'individus réduit, 200-300 personnes, quoi, sur l'ensemble d'une existence. Et avec une perception de l'environnement lointain, vous voyez, très floue. Rappelez-vous les cartes Terra Incognita. Un citoyen français, il y a encore 100 ans, il y avait la Terra Incognita, elle commençait à 100 km. Les étrangers, ils étaient trois villages plus loin. Et donc nous avons complètement changé notre rapport à l'espace et au temps, mais aussi nos manières profondes de vivre. Et je ne vais pas le développer là, mais ce basculement de monde, il est d'abord lié à l'industrialisation, c'est-à-dire à la démultiplication considérable de notre pouvoir d'action sur les choses par l'invention des machines. Je vous rappelle que l'ordinateur est une machine, c'est-à-dire un outil penser non pas empiriquement, mais scientifiquement pour démultiplier la puissance. C'est un démultiplicateur de puissance, l'ordinateur, comme toutes les machines. Et l'ensemble de notre monde contemporain fonde ses espérances quant à l'amélioration de notre bien-être sur ces machines. D'accord ? Notre espérance globale d'amélioration de notre sort humain est très majoritairement fondée sur les machines, beaucoup plus que sur la culture ou la spiritualité, de manière globale. Alors que l'humanité a vécu des siècles et dans des civilisations entières sans imaginer même pouvoir évoluer ou progresser. Et encore moins d'avoir des moyens rapides de progression. Nous vivons depuis un siècle et demi. Alors, pour une petite élite, nous vivons désormais tous, depuis maintenant 50 ans, dans l'illusion de la certitude que notre sort le plus profond va se développer grâce à ces outils. Voilà. Et la révolution industrielle, elle continue. Hein, c'est la révolution technologique. Donc nous sommes, et c'est bon d'ailleurs, à continuer à vouloir développer cette puissance. Ce qui est plus délicat, c'est l'investissement affectif que nous mettons dans ces progrès de puissance. Donc quand la DSL arrive, tout le monde dit « génial ». Voilà. Mais la croissance de la rapidité et la compréhension de ce que c'est qu'une personne humaine n'a pas bougé depuis 10 000 ans. Et voilà. On n'est pas beaucoup plus intelligent aujourd'hui à 20 ans qu'il y a 10 000 ans. Par contre, la DSL, voilà. Donc, vous voyez, excitation autour de l'augmentation de la puissance. Et d'ailleurs, effondrement du moral quand tout d'un coup la puissance, par exemple financière, s'effondre. Alors que l'ADSL fonctionne toujours aussi bien, bien que la puissance financière se soit effondrée. Mais dès qu'on perd de la puissance quelque part, aujourd'hui on panique. Hein, parce que la puissance est devenue une des valeurs fondamentales de l'organisation sociale et même de nos vies personnelles. Deuxièmement, le deuxième facteur de cette révolution, de ce basculement de monde et aussi de ce changement de paradigme, c'est la consommation. Et Internet, c'est aussi de la consommation. Pourquoi ? Parce que la consommation, elle est, pour pouvoir se développer et devenir le cœur du développement économique, fondée sur l'image. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de la consommation, une fois qu'on dépasse la consommation du nécessaire, hein, dès qu'on est dans la consommation du superflu, qui constitue 80% de votre consommation quotidienne, eh bien, il faut que la consommation du superflu... Pour développer la consommation du superflu, il faut jouer sur le désir. Et on joue sur le désir par l'image. Il vaut mieux même d'ailleurs développer le désir en lui faisant progressivement perdre toute raison. Hein, le désir déraisonnable est beaucoup plus efficace que le désir raisonnable, tout en lui donnant l'illusion d'avoir des raisons. Alors, les dinosaures de plus de 40 ans obéissent au désir déraisonnable, mais ils ont besoin d'avoir des raisons, de se donner des raisons, même si elles sont parfaitement fausses. C'est-à-dire qu'il faut qu'un adulte de 50 ans qui s'achète une nouvelle voiture puisse se dire que c'est parfaitement raisonnable, alors que c'est parfaitement déraisonnable, mais il faut qu'il puisse se le dire, surtout le français. Alors qu'à moins de 25, il est tout à fait prêt à acheter des choses parfaitement déraisonnables en sachant que c'est déraisonnable, mais ça, il a compris que la consommation n'a rien à voir avec la raison, mais à voir essentiellement avec la pulsion, le désir, l'envie, l'immédiateté du plaisir, la satisfaction à court terme, et la crise d'hystérie d'ailleurs si on n'est pas satisfait à court terme. Voilà. Internet préside aussi là-dedans. Le développement économico-commercial d'Internet est lié au sentiment d'avoir immédiatement la réponse. D'avoir immédiatement le plaisir, d'avoir immédiatement la chose et de pouvoir la consommer audiovisuellement. D'accord ? Et évidemment, la troisième révolution, c'est celle de la communication. Mais vous voyez, la révolution de la communication et de l'informatique s'inscrit dans une double révolution préalable, celle de la technologie et de la machine, celle de l'économie, du commerce et de la consommation. Et elle en est, c'est ce qui est Internet, ce qui est intéressant, notamment l'outil informatique et l'outil intégrateur de tous ces changements. Hein. Donc pour moi, l'Internet et l'informatique, c'est le ciment du nouveau monde. Et c'est ce qui permet de coordonner l'ensemble des... L'ordinateur et Internet étaient prédestinés à être la clé de voûte de la construction de ce deuxième monde. Hein? Et là encore, quand on est un dinosaure, on a encore vécu majoritairement dans le premier monde et on regarde le deuxième et on apprend à y rentrer. Et d'ailleurs, on n'arrive jamais complètement à y rentrer. Hein? Plus de 40 ans, il reste devant l'écran, il ne passe pas derrière. Alors qu'un moins de 30, il est né dans le réseau. Donc il est d'abord dans le deuxième monde. Et il hésite à choisir le premier comme un vrai premier monde. Est-ce que le premier monde, physique, basique, rural, vous voyez, qui est dans la glaise et dans la glèbe, et qui d'ailleurs décolle pas beaucoup et qui n'est pas très, très évolutif, quelle importance il faut lui accorder. Voilà. Donc c'est simplement pour dire que le changement de paradigme, il est complexe et il n'est pas uniquement lié à la révolution de la communication, mais qui en est quand même le sommet, puisque d'inventer un outil qui soit à la fois l'intégrateur économique, hein, aujourd'hui, l'informatique est ce qui permet de gérer l'économie mondiale, ce qu'on appelle les process de production et les échanges d'informations techniques. Hein, je ne parle pas des images. Aujourd'hui, l'économie mondiale est gérée par le biais de l'informatique. Et elle est même des fois, en grande partie, gérée par l'informatique elle-même. Dans une grande entreprise, personne n'est capable de comprendre le réseau. Pas plus que vous d'ailleurs, hein. On comprend l'architecture, mais pas le réseau dans son détail. Aujourd'hui, personne d'entre vous n'est capable de vous expliquer de quoi est fabriqué Windows ou Vista. Comment est-ce qu'on fait avec une machine qui est simplement 0-1, ça passe, ça passe pas. Comment est-ce qu'on fait avec ça pour fabriquer les images que vous avez sous les yeux? Et comment est-ce que cette machine fait semblant de réfléchir avec vous et même mieux que vous? Pourquoi quand vous appuyez sur votre iPhone, là, ça glisse tout seul là? C'est magique. Et on en reste à la pensée magique d'ailleurs de notre côté à nous, on va voir. Qu'est-ce qui se passe réellement du côté du 0-1? Puisqu'à la fin c'est du 0-1 et c'est du courant qui passe et qui passe pas. Vous en avez aucune idée. Mais même un programmateur n'en a aucune idée. Moi, j'ai beaucoup discuté avec des programmateurs. Rarissimes sont ceux qui sont capables de vous expliquer ce que c'est que l'informatique. Comment on passe de 0-1 à l'imitation de tous les processus rationnels. Pourquoi est-ce que cet outil est capable d'imiter tous les processus rationnels? Pourquoi est-ce que l'ordinateur est un assistant à la rationalité? Pourquoi est-ce que l'ordinateur est capable de devenir un substitut à la rationalité? C'est des questions énormes, ça. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est pour montrer que là, il y a des questions aussi derrière. Parce qu'on est dans des, vous comprenez bien, on est dans des outils dont la sophistication est l'équivalent d'une énergie nucléaire, d'une centrale nucléaire. Vous n'êtes pas du tout dans un aspirateur, vous n'êtes pas du tout dans un tournevis, et vous n'êtes même pas dans un moteur à explosion. D'accord ? Votre petit iPhone, là, c'est aussi compliqué qu'une centrale nucléaire, du point de vue technologique et du point de vue de la compréhension de l'outil. Bon. Quel effet ça a en tout cas, ces outils de communication? D'abord, la création extrêmement utile, mais aussi ambiguë, d'un substitut de réalité par l'image. Et même, allons plus loin, d'une image qui apparaît plus réelle que le réel lui-même. L'autre jour, j'ai vu avec chez un ami un film qui s'appelle La chute du faucon noir en haute définition. Moi, je n'avais jamais vu la haute définition. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que c'est la réalité comme vous l'avez jamais vue et comme vous la verrez jamais. Le niveau du grain de la peau des acteurs, vous ne la verrez jamais. Enfin, sauf si vous avez une hypervue et des loupes. Enfin, vous voyez, comment voir à la loupe à un mètre? Ce n'est pas possible. Vous ne voyez pas simultanément les gens à un mètre à la fois à la loupe. Ben, avec la haute définition, vous voyez quasiment le grain de la peau, vous voyez, les pores de l'individu, et vous êtes à un mètre. Vous vous dites, mais c'est quand même spécial ce truc-là. D'accord? Et donc, j'allais dire, l'image aujourd'hui vous donne un accès apparemment plus précis, plus détaillé, plus exhaustif, plus qualitatif. À la fin, on y voit mieux par l'image. Et presque, on est presque plus dans le réel. C'est presque plus que comme si on y était. C'est quand même paradoxal. D'accord ? Parce que les gens qui ont vécu vraiment le truc du faucon noir, j'ai pas vu, moi, le début, on m'a raconté le début de « Il faut sauver la vie du soldat Ryan ». Je veux pas voir ça, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez l'illusion, et les gens ont tous dit, mais oui, c'est comme si on y était. Non, parce que personne n'a eu la perception successive de la mort de 50 personnes autour de lui à 50 centimètres, d'accord? C'est difficile quand vous êtes un soldat en train de débarquer, d'être en l'espace, vous voyez bien, de 5 minutes à 50 centimètres de 40 de vos camarades en train de mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes qu'à l'endroit où vous êtes, vous n'êtes pas en même temps ailleurs. Or, dans le film « Il faut sauver la vie du soldat Ryan », vous êtes partout. Vous êtes partout, vous êtes dedans, vous êtes dehors, vous êtes au-dessus, vous êtes en dessous, vous êtes partout. Et on prend cette habitude-là. Donc au bout d'un certain temps, voilà, l'image, notamment la haute définition. Et donc ça crée un petit problème, c'est le sentiment d'une connaissance sensorielle absolue, alors qu'elle est évidemment considérablement limitée. Voilà. Donc ça pose une question derrière, c'est comment poser un jugement vrai à travers ces images. Je vous prends la métaphore de l'image, mais c'est vrai de l'information aussi. Donc il y a une inversion de la fiabilité. Normalement, je jugeais de la fiabilité de l'image à la lumière de la fiabilité de la sensation, et je finis par juger de la fiabilité de mon existence à la lumière de la fiabilité de l'image. Jusque-là, je jugeais de la fiabilité de l'information à la lumière de la fiabilité de mon expérience. Désormais, je juge la fiabilité de mon expérience à la lumière de la fiabilité de l'information. Wikipédia, c'est vrai. L'encyclopédia universaliste, pas sûr. Vous voyez, je caricature un peu, hein, je pousse le bouchon un peu loin. Donc, il y a une problématique du rapport entre le vrai et le vraisemblable. Voilà. Le vraisemblable est devenu, est passé devant. Alors, ça a des avantages énormes parce qu'on agit plus vite dans le vraisemblable. On agit plus vite sur un cadran et dans une représentation mentale que dans le réel, qui est plus complexe, qui est plus fin. Donc, ça permet d'aller plus vite et de gérer certains problèmes qu'on perdrait du temps à gérer trop près du réel. C'est vrai, objectivement. Donc, ça, c'est l'image... Qui devient à la fois un substitut de la réalité pour le meilleur. Hein. Je ne développerai pas les effets positifs puisque vous les connaissez, mais aussi par moments pour le pire. Deuxième élément, cet outil, nous obéissons à cet outil progressivement plus qu'il ne nous obéit. Pourquoi ? Parce que les lois du numérique ou les lois de l'informatique, l'obéissance aux lois du numérique et aux lois de l'informatique sont les conditions du développement de la puissance qu'ils nous permettent. Autrement dit, je peux me servir de ces outils uniquement là où j'en ai strictement besoin. C'est-à-dire à très peu d'endroits. Mais il me propose cet outil beaucoup d'autres usages, d'accord, dont je n'ai pas encore besoin ou dans lesquels qui amélioreront des secteurs de mon existence de manière faible. Qu'est-ce que ça va vous faire gagner d'avoir votre enseignement en vous servant d'Internet plutôt que d'aller ouvrir un livre dans la bibliothèque? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous perdez? La rapidité avec laquelle vous allez avoir l'information va vous pousser à aller directement regarder sur Internet. Sauf que quand on a appris à regarder dans une bibliothèque, on sait qu'en ouvrant un livre dans une bibliothèque, il y a des milliers de choses qu'on comprend en même temps qu'on ouvre ce livre auquel on n'a pas accès en allant chercher la référence dans Internet. Vous voyez, il y a un relief, tout simplement, je n'ai pas le temps de vous le détailler là, mais il y a des informations en tout cas qu'on ne trouve pas sur Internet et qu'on trouve dans une bibliothèque. Il y a une perception du relief de l'information qu'on a dans une bibliothèque qu'on n'aura jamais dans Internet. Et donc, l'outil progressivement, ce qu'on appelle la convivialité, ça n'est pas l'outil qui s'adapte à vous, c'est l'outil qui vous aide à vous adapter à lui. Et donc, nous apprenons progressivement à nous insérer dans ce deuxième espace-temps, dans ce deuxième monde, pour apprendre à nous en servir. La grande question, c'est d'arriver à percevoir les avantages de ce deuxième monde et puis ce qu'il ne m'apportera jamais. Les Japonais ont essayé, au cours de la deuxième partie du XXe siècle, de développer un double langage, de garder la langue japonaise et d'utiliser pour les objets, les produits et les concepts qui venaient de l'Occident un deuxième langage. Par exemple, le riz se dit de deux manières. Il y a un mot pour dire riz au sens japonais du terme. Il désigne uniquement le riz japonais, fabriqué à la japonaise, cuit à la japonaise. Et il y a un mot pour désigner le riz, qui est le riz universel. Enfin, vous voyez, celui qu'on vend chez McDo ou chez Burger King. Et donc, les Japonais ont essayé de garder cette séparation entre le monde traditionnel qui était le leur et le monde contemporain. Ils ont beaucoup de mal parce que le monde contemporain a fini par les infiltrer dans leur effectivité. Voilà. Donc, la difficulté, c'est comment distinguer ces deux mondes. Le monde de l'humain direct, le monde de l'expérience directe et le monde de l'outil. Enfin, le monde, la manière dont le monde tel que l'outil m'apprend à le voir, l'utiliser et y vivre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous rentrons dans ce monde comme nous avons appris à vivre dans la nature. C'est-à-dire dans un monde que nous ne connaissons pas, qui a des lois préalables et avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Donc, ça n'est plus un monde que nous maîtrisons, pour être clair. Pas plus les programmateurs que ceux qui possèdent Google. Plus personne ne maîtrise désormais cet espace. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il faut... puisque vous savez que le web est arrivé à saturation technique. Donc il s'agit de savoir est-ce qu'on va détruire le web et reconstruire une architecture informatique d'un nouveau type qui permette là de le développer indéfiniment, ou est-ce qu'on va se servir du web actuel comme le hardware du nouveau web. Enfin voilà, c'est une question technique. Donc, mais ce qui est clair, c'est que cet espace que nous venons de créer, qu'on va reproduire et développer, quels que soient les moyens techniques et technologiques par lesquels on va le faire, personne n'en a directement le contrôle des lois. Il n'y a pas de législateur des lois de ce monde. On essaye d'y faire un peu de police, ou un peu de censure, ou un peu de... Donc c'est intéressant de voir qu'il faut aussi le découvrir. C'est très bizarre d'avoir créé un monde dont il faut découvrir le fonctionnement et les lois, et découvrir d'ailleurs les possibilités. Alors, ce qui est intéressant, c'est avant d'analyser plus profondément, je pense que c'est bon de le souligner, c'est que c'est un monde qui est subjectivement rassurant, qui a l'avantage d'être subjectivement rassurant, sécurisant, amusant et rapide. C'est-à-dire qui est très profondément séduisant. Donc il y a des endroits où ce n'est pas raisonnable de s'en servir. Mais comme c'est sécurisant, amusant et rapide, à tout faire, je préfère prendre le risque de me servir de ça, même si je sais que je ne suis plus tout à fait dans le réel et que ça ne va pas tout à fait me donner des résultats ou des informations, une manière de rentrer en relation avec l'autre qui est vraiment authentique, mais à tout choisir, je vais quand même aller vers là. D'accord? Oui, je veux dire, c'est un produit de ça a été fondé, ça a été développé en même temps que la consommation. Hein. Relisez les écrits, je vous invite à retrouver ce livre qui s'appelle De Pepsi à Apple, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Steve Jobs. Non, pardon, John Sculley, qui parle de Steve Jobs, parce qu'ils ont pensé ensemble à ce moment-là le marketing d'Apple, et qui concevait à ce moment-là l'invention de l'ordinateur personnel comme une véritable révolution de la relation de l'homme à l'univers, de la relation de l'homme à lui-même et de la relation de l'homme aux autres. Et la promotion de cette nouvelle alliance par le biais de ce produit était favorisée par le fait qu'il était un produit de consommation, qu'il était conçu, vous voyez, il devait avoir le plaisir et la facilité et l'agrément que procure la logique de consommation. Vous voyez, les inventeurs du web militaire et les inventeurs de l'ordinateur, pardon, sont des ingénieurs rationnels qui ne sont pas du tout des gens marrants. Hein. Les débuts du langage informatique, ce n'était pas très... Et donc, cette espèce d'atmosphère subjectivo-affective dans laquelle est l'ensemble des outils informatiques a un côté de facilitation d'usage, mais il faut bien être lucide sur qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Alors, plus profondément, quels sont les avantages et les problèmes? Les avantages massifs, c'est la possibilité de déléguer la gestion des phénomènes. C'est énorme, ça. Déléguer la gestion des fiches de paye, la gestion des régulations des machines, la gestion de la surveillance de quantité de choses. Enfin, vous voyez, déléguer tout ça, c'est un gain énorme d'énergie. Il y a quantité de choses que nous n'avons plus besoin de faire. Le calcul, par exemple. Le problème, c'est est-ce que nous déléguons aussi la responsabilité? C'est ça le problème. Comment déléguer la gestion sans déléguer la responsabilité de la gestion? Les avantages aussi, c'est qu'on est dans le ludique et l'adaptatif. Donc il y a aussi une espèce de facilité à se servir. Vous voyez, je veux dire, ça nous devient très intime, comme un jeune qui est né dedans, il a une facilité à se servir de cet outil, comme s'il était tombé dedans quand il était petit. C'est un avantage, ça, une espèce de facilité d'usage. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours pénible, si ça peut être agréable. Ça fait partie de l'existence, y compris chrétienne, de ne pas mettre du sacrifice là où ça n'a aucun sens, et de ne pas mettre de la souffrance là où il peut y avoir du plaisir. Et puis, le troisième avantage, c'est l'accès. L'accès, pas le traitement de l'image, l'accès aux images, l'accès aux informations, l'accès aux choses et l'accès aux êtres. Mais c'est un accès sous condition. Sous condition. Vous pouvez discuter avec votre petit-fils à San Francisco tous les soirs par Skype doublé d'une webcam, et vous pouvez discuter, rigoler avec lui en direct, mais c'est sous condition. Parce que ça n'est pas la même chose qu'une rencontre physique. Mais il y a quand même, c'est important de le souligner, une rapidité et une facilité d'accès aux images, mais aux informations, pas à la connaissance, aux informations, aux choses, aux objets, mais aussi aux êtres. Mais quand un jeune vous dit « j'ai rencontré une nouvelle personne sur Internet », vous dites « mais tu as rencontré ?»« Oui, j'ai rencontré. » Qu'est-ce que ça veut dire pour toi « rencontrer » ?» Je n'ai pas le temps, mais j'ai vécu une fois en 15 secondes un petit exemple d'un garçon qui voulait souhaiter l'anniversaire de sa fiancée, lui étant à Washington, elle étant à Hollywood, et qui avait décidé de faire ça, de se faire un petit repas par webcam devant leur écran, chacun en ayant acheté la même chose au resto d'à côté. Okay, bon. Il se trouve que lui avait corsé la chose en décidant de lui faire une surprise, donc il était en fait pas à Washington, contrairement à ce qu'elle croyait, mais dans l'appartement d'au-dessus, à Hollywood. Et il est descendu au milieu du repas lui faire un coucou. Elle s'est mise à hurler pendant 5 minutes. Après ça, voilà, et elle a mis une journée pour s'en remettre. Ce qu'on appelle un double bind. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle avait pu, vous voyez, de gestion. Voilà. C'est un petit exemple, mais moi, ça m'a donné à penser. Sur, vous voyez, accès à l'autre, rencontre de l'autre, mais sous condition. Donc, il y a une part qui m'échappe, quoi. La personne qui vous parle, là, est peut-être morte depuis 15 jours. Bientôt. On arrivera à avoir des images suffisamment fines, vous voyez. Et oui, la personne pourra être même interactive en étant morte. Elle répondra, alors elle aura sans doute un petit ton mécanique au début, mais à force, on arrivera à imiter sa voix. Bon, on pousse les choses, hein, mais voilà. Les gens choisiront de laisser des testaments sous cette forme-là. Et ils laisseront une mémoire éternelle à leurs petits-enfants qui pourront continuer à discuter avec eux 50 ans ou 100 ans plus tard. Donc voilà, c'est tout ça les possibles. Hein. Facebook, c'est le genre de motivation au début, c'est ce type de motivation qui fait ce... Alors, les problèmes, c'est quoi? C'est d'abord, on est dans l'infrarationnel. Le langage informatique est techniquement un langage de type mathématique, mais il s'est, par le biais de la convivialité, il s'est développé de manière... C'est un langage symbolique, intuitif. C'est pour ça qu'un enfant de 3 ans sait se servir d'un ordinateur. L'infrarationnel, c'est pratique, mais c'est infrarationnel. Donc c'est bien de ne pas y rester tout le temps. Et à un moment donné, c'est bien de passer au rationnel, ça a aussi des avantages. Mais c'est parce que c'est un langage, une espèce de mode de communication audiovisuel de type symbolique, qui fait que, par moment, sans m'en rendre compte, ça remplace la rationalité. Deuxièmement, c'est le problème de la séduction du vraisemblable par rapport au vrai. Le vraisemblable, ça peut être ce que soulignait déjà Platon. C'est très sympathique quand ça, c'est une manière de faire accéder au vrai, mais ça peut se remplacer le vrai. Donc il y a un problème de perte du jugement vrai, de la possibilité du jugement vrai, même une perte du sens du réel. Puis un problème plus profond, c'est celui de la responsabilité ou de la déresponsabilisation sur l'outil, avec le problème aussi de la... Des fois, on n'arrive pas à être responsable parce qu'on ne comprend pas l'outil. Et puis, il y a une question psychologique et affective plus profonde, c'est l'ivresse du pouvoir et l'ivresse des possibles. La toute-puissance infantile, pour parler comme les psychologues, est hautement favorisée et développée et conservée. Vous savez, c'est ce désir un jour de pouvoir être tout le temps partout, connaissant tout, dominant tout et étant le centre du monde. C'est vrai, quand je suis devant mon écran, je suis le centre du monde. Pourtant, je suis face à rien. Il y a juste des petits écrans, il n'y a personne dans la pièce. Je suis tout seul avec moi-même, quoi. Alors, quelles questions ça pose? Question politique. L'Internet développe-t-il la démocratie? Énorme question. Qu'est-ce que la démocratie? En pleine question. C'est pas parce que c'est accessible par tout le monde que ça développe en quelconque manière la démocratie. Quelles sont les conditions pour qu'Internet puisse être un outil démocratique? Ça, c'est une bonne question. Mais pour ça, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie occidentale. Donc ça, c'est une vraie question. Et notamment, qu'est-ce qui aujourd'hui échappe à toute décision politique? Qu'est-ce qui relève dans la vie sociale de l'usage de cet outil et qui n'est pas dans le politique? Aujourd'hui, enfin, on va parler ça autrement, l'Internet est quand même globalement un espace de non-droit. D'accord? Où il s'y passe quantité de choses que n'importe quel pays et législateur un tout petit peu raisonnable n'aurait jamais permis chez lui. Enfin, on le sait bien, si vous voulez. L'accès immédiat à de la prostitution en direct dans les secondes qui suivent de manière virtuelle ou à la possibilité d'assassiner quelqu'un ou d'assister à son assassinat ou à son viol en direct, si vous voulez, normalement, dans un pays raisonnable, un tout petit peu évolué culturellement, on ne permet pas ça à n'importe qui en permanence, en gros. Enfin, il y a des âges où ce n'est pas permis, puis même globalement, ce n'est pas recommandé pour les citoyens. On organise, on guillotine les gens, mais c'est sur la place de grève, on met ça en scène, si vous voulez. Il y a des meurtres organisés, mais ça s'organise, vous voyez, c'est politiquement géré, normalement. C'est pas n'importe qui va assister à ça n'importe où, n'importe comment. Alors, vous le savez, sur Internet, vous pouvez aller, si vous débrouillez bien, aller trouver des endroits où, effectivement, on a filmé le meurtre de gens en direct. Voilà, donc c'est pour dire que là, il y a une problématique de qu'est-ce qui échappe au droit politique. Et c'est très impressionné, moi, du degré de tolérance, pas au bon sens du terme, des responsables politiques d'un pays, ou même à une échelle internationale, par rapport à cet immense espace. Voilà. Alors on commence à faire des choses. On n'a pas le droit d'aller... On ferme les sites qui vous expliquent comment fabriquer des bombes nucléaires, on ferme les sites qui vous expliquent comment vous enfin, les sites pédophiles, enfin voilà, on ferme. Mais en fait, on ferme rien du tout, parce que de toute façon, vous coupez la tête du dragon, il en repousse 7, donc... Parce que c'est normal, hein, c'est pas un espace gérable, puisqu'il n'est même pas compréhensible. Alors on pourrait là, hein, le re-réduire, mais c'est comme interdire aux banques de désormais faire des produits financiers et de les ramener sur leur métier premier, qui est simplement de faire de l'investissement, de jouer entre épargne et investissement, c'est la même chose. Est-ce que j'accepte qu'on me réduise mon champ des possibles? Est-ce que nous envisageons la réduction volontaire de notre pouvoir d'achat par sauvegarde de notre écologie spirituelle? Pas sûr. Donc, deuxième question économique. L'outil informatique, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quel est son impact sur l'économie. Quelle est la part de l'usage de l'outil informatique dans la crise financière que nous venons de vivre? Sans doute énorme. Énorme. On dit, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça a à voir. L'ensemble des bourses à l'échelle mondiale sont aujourd'hui sur écran. C'est plus des personnes qui se rencontrent. Les traders sont derrière des écrans. Enfin, je pourrais prendre d'autres exemples. La finance et Internet, ça va ensemble. Parce que c'est la construction d'outils très puissants, mais dont on ne sait plus très bien où est-ce qu'ils sont par rapport à la réalité de base. En quoi est-ce que l'informatique accélère l'économie mondiale au-delà de ce qui est raisonnable? Voilà. Et dans quelle mesure elle complexifie? Parce que vous l'avez compris, l'ordinateur permet une interactivité extrêmement rapide entre un nombre de gens de plus en plus important et presque en permanence. D'accord. C'est beaucoup plus compliqué, ça. Quand vous êtes sur votre chat là, avec 6 personnes simultanément, je ne sais pas comment ils font, moi, les jeunes, qui ont ouvert 5 trucs sur Facebook et qui discutent avec 5 personnes à la fois sur des sujets différents. À la fin, d'ailleurs, plus personne ne discute de rien du tout. Vous voyez, on est dans l'interaction pulsionnelle, vous savez, comme les mouvements browniens, quoi. Vous voyez. C'est presque de l'agitation biochimique, quoi. Il n'y a plus grand-chose dedans comme contenu. Au niveau social, qu'est-ce que la question de la relation à autrui? La solidarité, les lieux de rencontre. Peut-on basculer dans une solidarité à l'intérieur du réseau sans développer de solidarité dans le face-à-face? Et comment l'une peut être au service de l'autre? Donc, comment garder l'ancrage, comme vous soulignez tout à l'heure? Je ne parle pas au niveau familial. Éducation au réel, au sens du réel. Et puis derrière, moi j'observe ça chez mes frères, c'est la problématique d'une perte progressive du sens de l'analyse. Qu'est-ce que c'est l'analyse? C'est tout simplement le commencement de l'éveil de l'intelligence adulte. C'est percevoir que le phénomène immédiat, c'est pas encore le fond des choses. Il faut aller derrière le phénomène immédiat. Que c'est pas simplement en associant sur le même plan plein d'idées qu'on réfléchit. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, ils font des devoirs comme ça. C'est du coupé-collé. Et quand ils vous l'écrivent même à la main, c'est toujours du coupé-collé. C'est-à-dire qu'ils additionnent des informations de manière intuitive, un peu en désordre. Ça ne va pas de A à Z, d'ailleurs. Et à la fin, on ne sait ni très bien ce qu'ils veulent dire, eux non plus, d'ailleurs, ni très bien quel est l'ordre dans lequel ils disent. Mais en gros, ça évoque quelque chose qui ressemble au sujet. Voilà. Les articles aussi de journaux deviennent comme ça. Il y a des articles où, en fait, rien n'est réellement dit. Tout est évoqué de manière vraisemblablement, dans un flou vraisemblable, tout à fait évident. Et vous dites, mais au fond, à la fin, il a dit quoi, l'article, là? Alors, quand vous admettez ce qu'il a dit, en fait, il a dit quelque chose qui tient en 4 mots, quoi. Ça faisait une page. Voilà, donc ça, c'est la question de l'espace familial. Pour finir, si on revient sur le niveau ecclésial, je dirais pour moi, il y a deux questions, deux niveaux, si vous voulez, de réflexion. Un premier, qui est de voir tout ce que touche positivement ces outils, qui sont des outils de communication. Et de contact sous condition. D'accord. Évidemment, la grande question, c'est la communication, ça touche directement ce qu'est l'Évangile, l'Église, le chrétien. Pourquoi? Parce que la communication est depuis Abraham, essentielle à la vie judéo-chrétienne. Et que la civilisation judéo-chrétienne a considérablement accentué, pour ces raisons-là, la communication. À cause de la révélation, puisqu'elle est centrée sur la révélation, donc sur une communication. Elle est centrée sur l'annonce, plus encore le christianisme que le judaïsme. Donc sur la communication de la révélation elle-même, qui est une communication. Sur la démultiplication de cette annonce, ça s'appelle l'évangélisation. Et puis derrière, sur la démultiplication des rencontres permises par la communication. Là, vous voyez bien, je suis dans une analyse philosophico-social du phénomène de communication dans le christianisme. Et puis ça touche aussi parce que qui dit révélation dit réflexion et formation. Donc l'accès à la formation, elle est essentielle. C'est un des soucis essentiels de l'histoire de l'Église, d'avoir des gens qui forment. à précisément passer de l'écoute de la parole à sa compréhension et de la mise en œuvre de ce qu'on a compris à la vie. Et puis l'unité, c'est-à-dire à la fois diversité et unité, c'est la question essentielle du de l'Église en tant qu'elle est catholique, pas au sens différent des protestants, vous voyez, mais catholique qui est universelle, qui est universelle parce qu'elle est à la fois une et diverse. Donc évidemment, ça nous impacte en direct, hein, ça fait tilt, si vous voulez, un outil pareil. Donc ça peut à la fois, nous pouvons être à la fois ceux qui nous sommes les plus dangereusement séduits et en même temps ceux qui sommes les plus préparés à nous en servir, oui, les deux. Et donc derrière, sont la question de ce que j'appellerais les précautions. Ça, c'est le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui doit nous intéresser. Et les précautions, là aussi, qui viennent de l'héritage ecclésial, c'est les précautions par rapport au vrai. Où est le vrai là-dedans? Comment j'accède au vrai? Les précautions par rapport au beau. Vous voyez, le beau séduction ou le beau accès facilité au réel. Saint Thomas dit la beauté est un accès à la bonté des choses. Il parle de ça à propos du mariage. Pour réagir contre Saint Paul. Une femme doit-elle être belle et doit-elle pouvoir être séduisante entre guillemets par rapport à son mari? Bien sûr, parce que ça permet d'accéder à sa bonté et à son être normalement. Donc vous voyez, beauté et séduction, le juste aussi. La justice est une chose sur laquelle l'Église se bat fondamentalement. Puis quand même, c'est la bonté le dernier critère. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Parce que même les choses vraies, belles et justes, elles peuvent être mauvaises. Tout ce qui est vrai n'est pas toujours bon. Il y a des vérités qui sont tout à fait vraies, mais ce n'est pas du tout bon de les dire à ce moment-là. Parce que la personne, elle va devenir folle. Ou elle va se jeter par la fenêtre. Voilà, donc le dernier critère quand même chrétien, c'est la bonté, c'est l'amour. Et puis la précaution, vous voyez bien, c'est que, pour le coup, la foi me fait comprendre que tout n'est pas dans le sensible immédiat. Enfin, il y a des degrés de... Enfin, il y a du réel sensible, il y a du réel intelligible plus profond, et puis il y a du réel divin. Enfin, vous voyez, il y a des profondeurs de réalité. Ça, je peux quand même... Tout n'est pas plat. Le divin n'est pas dans la machine, quoi. Et c'est pas le réseau informatique qui me donne à penser à la Sainte Trinité. Parce qu'à la fin, si vous voulez, on ne sait plus où on est, vous voyez. Voilà. Pour moi, il y a un deuxième niveau, et je finirai par là, plus profond. Et donc, vous voyez, pour moi, quels sont nos devoirs du côté d'un chantier ecclésial? D'abord, de compréhension de cet outil et de son statut. On n'a pas fini du tout de travailler là-dessus. On est au début de comprendre. Vous voyez, on est les Pierre et Marie Curie de l'informatique. On nous espère de ne pas mourir irradiés comme eux, mais on est un peu ça, soyons clairs. On est dans les débuts de l'usage de cette énergie nucléaire qui a une puissance de déflagration négative ou positive. On va faire des centrales ou on va faire des bombes? On va faire Hiroshima ou on va faire un super réacteur nucléaire qui permet de polluer moins? Et là-dedans, en vue de quoi cet outil? Que se passe-t-il dans cet outil? Qui décide dans cet outil? Qu'est-ce que cela engage de moi et de l'autre, et des autres, l'usage de cet outil? Bon, voilà, ça c'est le chantier de fond. Ensuite, ça me renvoie, deuxièmement, à la nécessité de développer une sagesse d'usage. Et là, il y a un énorme chantier. Pas simplement des précautions techniques d'usage, comme dans une centrale nucléaire, mais une vraie sagesse, parce que, si vous voulez, le nucléaire, ce n'est pas de la connaissance. Là, on manipule de la connaissance derrière. On manipule des choses qui ont un impact, vous voyez bien, beaucoup plus profond sur la vie spirituelle des individus. Donc, ça réclame une vraie sagesse d'usage. Comment allons-nous développer une sagesse d'usage? Et là, je voudrais vous donner juste quelques pistes. Vous voyez, donc une sagesse d'usage, c'est quoi? C'est quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne fait pas disparaître la présence, qui ne fait pas disparaître l'intime, qui ne fait pas disparaître l'identité. Un outil de communication humain, il doit permettre l'accès à l'identité, à la présence, à l'intime, respecter la fragilité. Donc en gros, on va dire que pour moi, ces réseaux, c'est le lieu dans lequel se développent à la fois des logiques de bonté, des logiques de péché. Ça peut devenir une structure de péché, comme ça peut devenir une structure qui favorise la communion. Voilà, c'est ça les grands enjeux. Et pour ça, j'avais fini en me posant quelques questions. Je me disais, quelles questions se poser? D'abord, au niveau de la compréhension, c'est à quoi ça me sert? Non pas à quoi ça sert, mais à quoi ça me sert, l'usage de cette chose-là. J'ouvre mon ordinateur, à quoi ça me sert? Je vais sur Google, à quoi ça me sert? Je vais sur le site Intel, à quoi ça me sert? C'est élémentaire, hein. Deuxièmement, du côté des précautions, deuxième niveau de question, précautions. J'y passe quel temps? C'est une question tragique, ça. Moi, je ne me sers quasiment jamais d'Internet. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réussi à ce que le temps effectif où je l'utilise soit en dessous de 4 fois le sentiment que j'en ai. C'est-à-dire que quand j'ai le sentiment que j'y ai passé un quart d'heure, ça fait une heure. Donc je me dis, j'arrête là. C'est comme celui, vous savez, qui a le sentiment qu'il a bu un demi-verre d'alcool. En fait, il en a son quatrième verre, quoi. Donc voilà, moi, je suis alcoolisé. Enfin, voilà, donc je ne peux pas me servir de cet outil de manière raisonnable. Parce que je suis trop hypervisuel, ça correspond trop à mes structures de pensée par ramification. Donc voilà, je sais qu'il faut que je m'en serve strictement pour des choses parfaitement utiles. Sinon, l'outil prend le dessus sur moi et qu'il faudrait 20 ans d'entraînement. Donc, je ne suis pas apte à ça. Donc, je demande à mes frères. Voilà. Mais c'est bien. Et eux me demandent, quand ils ont des choses qu'ils sont absolument incapables de faire à leur place. Et les endroits où ils ont absolument terriblement peur d'aller aider telle ou telle personne, ben voilà, ils m'envoient à leur place. Chacun, on va y revenir sur eux. Donc, le temps utilisé. La quantité d'informations par rapport à leur qualité. Parce qu'évidemment, au bout d'un certain temps, la quantité d'informations est telle que même s'il y en a une ou deux qui est géniale, de toute façon, vous n'êtes même pas capable de les trier. Les images croisées. Est-ce que ça touche en moi? Il y a une image, ça peut durer 15 secondes, 20 ans plus tard, je m'en souviens. D'accord? Parce qu'elle est venue se loger à un endroit très mauvais pour moi. Du point de vue de la peur, du point de vue du désir, du point de vue du désespoir, du point de vue... Voilà. Et puis, qui est maître de ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis encore maître de ce que je fais? Ou est-ce qu'à la fin, là, ça y est, les gens du site, ils ont pris le dessus sur moi. Ils me disent, tapez 1. Puis après ça, ils me disent, non, tapez 2. Et revenez à la case départ. Et à la fin, c'est qui décide, quoi? Vous savez, vous êtes à la quatrième fois que vous restez sur sncf.com. Je vous dis, recommencez dans 5 minutes. Et vous recommencez dans 5 minutes et ils vous font tout ce que vous dites. Si vous aviez quelqu'un dans le guichet, le bout de 3 minutes, vous direz, écoutez, madame, ça va bien, c'est la troisième fois que vous me reposez la même question. Vous êtes de la SNCF ou bien quoi? Mais la machine, elle vous dit retapez pour la cinquième fois 6 et vous retapez 6. Voilà. Donc, qui décide? Vous voyez, je veux dire, on est prêt à s'aliéner, mais volontairement. Vous obéissez au gendarme, parce que c'est un gendarme. Donc voilà, c'est les questions, hein, qui décide. Et puis, à qui je fais confiance? En qui je mets ma confiance là-dedans? À la fin. C'est la même chose que qui a décidé. Est-ce que c'est moi ou est-ce que je me suis servi de la chose et comment est-ce qu'elle s'est servie de moi? Voilà. Ensuite, il y a les questions, pour moi, toujours les questions clés. Où est-ce que je me forme? Auprès de qui je me forme? Pas techniquement, hein, ce n'est pas très difficile, mais humainement, prudentiellement. Comment j'apprends mes propres zones de danger? Vous avez des gens qui peuvent faire du hors-piste, si vous voulez, et même du ski extrême. Vous en avez déjà les pistes rouges, ils risquent de se casser la jambe. Ben là, c'est la même chose. Je devrais avoir un balisage du domaine, vous voyez, non pas skiable, mais du domaine Internet. Il y a des endroits, je ne peux pas aller là. Il y a avalanche. Là, il y a chute de neige. Là, il y a non-visibilité. Là, au contraire, je peux y aller. C'est un grand boulevard. Là, il y a trop de monde. Vous voyez, je dirais, il y a une espèce de... Les zones à risque, les zones de danger. Pour certains, pour tous. Comment apprendre? Et là, je pense qu'on n'est complètement pas conscient de ça. Et là-dedans, encore une fois, l'évaluation des degrés de danger variable selon les sites, ou les émissions, ou les sujets abordés, et puis selon les utilisateurs. Un enfant, une famille, mais un adulte, encore une fois, je pense que c'est capital, comme un alcoolique anonyme, de pouvoir dire non, je ne peux pas boire de cet alcool parce que je suis alcoolique. Et c'est de le savoir et de le dire qui me garde durablement libre. Vous voyez, je veux dire... Et donc là, je redis qu'il y a une espèce de complémentarité dans la bienveillance à l'égard des fragilités réciproques qu'on est obligé de développer. Parce que, comment vous dire ça? Vous comprenez bien, on est dans de l'intensité énergétique qui peut ressembler à une grande fête ou à la guerre... Enfin, vous voyez, je veux dire, on est dans du danger et du bien qui sont très vite extrêmes. Voilà. Et puis la dernière question, c'est évaluation des bénéfices et des maléfices. Au sens étymologique du mot, bénéfice, c'est-à-dire ça me fait du bien, maléfice, ça me fait du mal. Quels sont les bénéfices et les maléfices? Et donc évaluation,
au bout de 2 heures d'usage, évaluation hebdomadaire, évaluation mensuelle, évaluation annuelle. Enfin, vous voyez, comme dans une entreprise, quoi. Vous faites des bilans d'évaluation.
Et vous dites non, là, il faut que je réduise. Je ne peux pas. Je me fais piéger. Et là, je suis très frappé, c'est que on pourrait dire, mais les images, tout ça, c'est essentiellement les hommes. Pas du tout. Vous avez des femmes qui jouent au bridge indéfiniment sur Internet. Vous avez, enfin, c'est très bizarre, ça touche tous les âges. Vous voyez, je veux dire. Et donc, c'est un lieu qui peut s'infiltrer dans mes zones de fragilité comme, au contraire, être un outil de salut. Enfin, vous voyez, il y a des gens, on les sauve par les technologies de la communication parce que vous avez pu être appelé par le téléphone portable et que si vous n'aviez pas pu joindre le SAMU en direct, 3 minutes après, la personne, elle était morte. Moi, j'ai vécu des choses comme ça où il y a des gens, on leur a sauvé la vie, très concrètement. Mais inversement, vous pouvez pulvériser la vie d'une personne en une semaine. Parce que c'est la personne, tout d'un coup, vous, voilà, c'est laissé filmer et définitivement, la vidéo, elle est à vie sur Internet. Elle la poursuivra même après sa mort. Voilà. Puis je finirai par un élément spirituel, pardon, hein, j'ai dépassé complètement mon temps, je suis désolé.
Je vais couper le micro.
Oui. Il faut que l'audace soit proportionnelle à la compétence. Que l'audace soit proportionnelle à la compétence. Et d'autre part, se souvenir qu'à la fin, la communion, et ça c'est l'évangile qui nous la révèle, elle n'est que dans les lieux où les personnes s'accueillent dans leur fragilité réciproque. L'évangile, l'évangile, c'est le Christ crucifié glorieux. L'évangile, c'est que Dieu s'est dit dans la fragilité. L'évangile primitif, c'est des gens miséricordiés et durablement fragiles qui avaient besoin indéfiniment de la bienveillance, de la compassion et de la miséricorde les uns des autres. Et donc ça doit rester, à mon avis, ce qui est tout le temps au fond de nous. Est-ce que ça fait grandir la compassion, la miséricorde? Et est-ce que ça aide à ce que la fragilité réelle des personnes soit confiée les unes aux autres? Ou bien est-ce qu'on est dans la manipulation perverse, au plus profond sens du terme, des fragilités humaines pour leur faire perdre jusqu'à leur propre identité? Voilà, vous voyez, c'est ces combats-là. Pardon, j'étais beaucoup trop long, je ne sais pas bien. Cool.